Donc à ouvrir votre Bible en l'épître de Paul aux Philippiens. Nous sommes dans l'étude de l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens, on est au chapitre 1. On est toujours dans cette prière de l'apôtre Paul pour cette église de Philippe. Philippiens chapitre 1. Et je vous encourage à lire la lettre aux Philippiens. Ça ne prend pas beaucoup de temps à lire. Et vous pouvez lire et relire même. Comme ça, on s'imprègne à chaque fois de l'ensemble de la lettre. Nous allons lire les 11 premiers versets de ce chapitre 1er, Philippiens chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 11. Philippiens 1. 1 à 11. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. On va s'arrêter là. Alors, la prière, elle va jusqu'au verset 11. Hein. À partir du verset 12, on a lu, mais vous voyez que Paul, l'apôtre Paul, change de sujet. Il dit, je veux que vous sachiez, il parle de sa situation particulière à Rome. Il est en prison à Rome quand il écrit cette épître. Il est à la fin de sa vie. Hein. Il est à la fin de sa vie. Et il adresse cette épître pour remercier probablement les Philippiens pour leur générosité, leur don, leur soutien financier, mais pour exprimer aussi sa reconnaissance pour on a vu dans la première partie de la prière, pour leur participation à l'Évangile. Donc cette prière qui va du verset 1 jusqu'au verset 11 peut être divisée en deux parties. Une première, verset 1 jusqu'à verset 3, on va dire jusqu'à verset 8, où l'apôtre parle de son état d'esprit, de son attitude à l'égard dans sa prière. Et puis à partir du verset 9, nous avons le contenu proprement dit de la prière. Et ce que je demande dans mes prières. D'accord ? Nous verrons ça un peu plus tard. Et dans la première partie, verset 3, verset 8, nous avons vu que l'apôtre Paul exprime sa joie. Il prie, il dit qu'il prie avec joie quand il pense aux Philippiens. Et la raison, l'une des raisons pour lesquelles il rend grâce à Dieu avec joie, c'est à cause de la participation des Philippiens à l'Évangile. Nous avions vu ça la dernière fois, hein, que les Philippiens avaient pris part à l'Évangile. C'est quelque chose qui réjouit le cœur de l'apôtre Paul. Mais ici, on va vous considérer aujourd'hui juste le verset 6 de ce passage où l'apôtre Paul dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ ». Il exprime sa joie pour la part, la participation, la communion que les Philippiens ont pris à l'évangile de diverses manières. Mais il dit, étant assuré, si on lit dans une autre version, la version Darby, par exemple, il dit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, dans chacune de mes supplications, faisant toujours des supplications pour vous tous avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant, étant assuré de ceci même, que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il exprime sa confiance, il dit qu'il prie avec eux avec le cœur débordant de joie parce qu'il voit leur engagement, leur communion à l'évangile, mais en même temps parce qu'il a une confiance certaine, solide, indéfectible dans le fait que ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il dit, étant assuré, étant persuadé de ceci même, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera ou la rendra parfaite ou la perfectionnera pour le jour de Jésus-Christ. Elle pourrait dire que peut-être que parfois nous pouvons manquer de joie dans notre vie en tant que chrétien, peut-être à cause de notre incapacité à contempler l'œuvre que Dieu fait dans la vie, dans notre propre vie même, et puis aussi dans la vie des autres. Paul est débordant de joie parce qu'il est certain que Dieu est en train d'accomplir quelque chose qu'il va mener à perfection dans la vie des Philippiens. Et je voudrais voir un certain nombre de choses ce matin avec, à partir de ce passage, que le Seigneur nous conduise là-dedans. C'est premièrement que ce que Paul dit, c'est que Dieu est l'auteur et l'initiateur du salut. Dieu est l'auteur et l'initiateur du salut. Il dit, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre. Celui, quand il dit celui, bien sûr, il fait référence à Dieu. Et il fait référence à Dieu le Père, parce que la fin du verset dit qu'il conduira toutes choses à perfection pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Dieu le Père a commencé en vous une bonne œuvre qu'il rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu, dit-il, est à l'initiative de cette bonne œuvre que l'on voit en vous. Et Dieu est à l'initiative de toute œuvre dans la vie des hommes, dans la vie des croyants. Il a été à l'initiative dans le jardin d'Éden, juste après que Adam et Ève aient chuté. Parce que c'est lui qui est venu et qui a dit, Adam, où es-tu? Dieu a pris l'initiative de la relation. Et l'apôtre Paul et Silas, bien sûr, sont les instruments que Dieu a utilisés pour cette église de Philippe. Mais vous remarquez, Paul ne dit pas ici qu'il rend grâce à Dieu parce que, bon, grâce à la bonne œuvre que lui, il a commencé, que lui et Silas ont commencé dans cette ville de Philippe. Il dit, je rends grâce à Dieu et je suis persuadé que lui, Dieu, qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. C'est Dieu qui a commencé en vous cette bonne œuvre. C'est Dieu qui a été à l'initiative de la fondation de l'Église à Philippe. Si vous lisez Acte 16, où il est question, regardons un petit peu Acte 16, question de la naissance de cette Église, nous vous invitons à regarder dans le livre des Actes et au chapitre 16, Acte chapitre 16. À partir du verset 1, il est dit que Paul se rend à Derbe et à Lystre et il rencontre Timothée qui est d'une mère juive et d'un père grec. Et il le prend et le fait circoncire avec lui. Ensuite, verset 4, il passe par les villes et il recommande aux frères d'observer un peu toutes les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. La Bible nous dit que les églises se fortifiaient dans la foi, augmentaient en nombre et de jour en jour. Puis au verset 6, il est dit, « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. C'est assez frappant ici de voir que le Saint-Esprit, quelque part, s'oppose à ce que Paul et Silas et d'autres annoncent. C'est ce que Paul dit ici. Il dit que l'Esprit ne nous permit pas d'annoncer la parole dans l'Asie. Il crée un obstacle pour cette région-là. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qui se passe un petit peu plus tard? Deux fois, en plus, il le dit, que le Saint-Esprit ne le leur permit pas. Au verset 7, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Et puis, on arrive au verset 9 et la Bible dit que Paul a eu une vision dans la nuit. Et puis, il voit dans sa vision un Macédonien qui lui dit, passe nous visiter, passe nous secourir. Viens, passe en Macédoine et secours-nous. Et cette vision, ce n'est pas Paul qui s'est fabriqué cette vision lui-même, c'est Dieu qui donne cette vision pour guider ses serviteurs. Et Paul dit ici, Luc qui raconte cela, il dit, verset 10, « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. » Et ils sont partis donc en Macédoine. Et comment cela s'est passé? Par une double... un double obstacle, je veux dire, dressé par le Saint-Esprit, une vision d'un Macédonien, et ils arrivent dans la première ville d'un district, ils arrivent à Philippe, et là, ils rencontrent un petit groupe de femmes qui sont en train de se réunir au bord d'une rivière. Et c'est ainsi que commence l'Église, la fondation, si vous voulez, de l'Église de Philippe. C'est Dieu qui a dirigé Paul et Silas en fermant certaines portes et en ouvrant d'autres pour qu'ils puissent aller dans ce lieu. Mais ça n'est pas tout. Lorsqu'ils arrivent dans ce lieu, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui s'appelait Lydie, elle était marchande de pourpre, et elle écoutait ce que disait l'apôtre Paul. Et au verset 14 de Acte 16, il dit « L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. » Et elle écoutait, et notez bien cela, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Elle écoutait, mais il a fallu que Dieu lui ouvre le cœur afin qu'elle fût rendue attentive à ce que Paul disait. Et puis un peu plus tard, on trouve dans ce même chapitre, vous savez, Paul, il délivre une femme qui était possédée par un esprit de Python, il se fait attraper par les gens de la ville, jeté en prison, et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pendant qu'il est en prison, bien, il y a un tremblement de terre, et puis le gardien de la prison vient tout tremblant à leurs pieds, et puis il pose cette question: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et là encore, bien sûr, Paul et Silas vont parler à cet homme, ils vont lui témoigner, lui dire ce qu'il doit faire, mais c'est Dieu qui a provoqué le tremblement de terre pour que cet homme en arrive à ce point et qu'il demande, qu'il pose la question sans doute la plus importante de sa vie: que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et je peux penser que Paul a certainement tout cela en tête, il dit: c'est Dieu qui a commencé toutes ces choses dans votre cœur. Et celui qui a commencé cette œuvre dans votre cœur, je veux que vous sachiez qu'il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Bien sûr, Dieu utilise des instruments de toutes sortes, des hommes, la nature, les tremblements de terre, le vent, les tempêtes, tout ce que l'on veut. Mais c'est lui qui initie dans les cœurs le salut. Ça n'est jamais un homme qui initie le salut dans le cœur d'un autre. Et le Seigneur Jésus avait agi de la même manière avec les disciples. Rappelez-vous, après sa résurrection, la Bible dit qu'il les rencontre et il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans le livre dans la loi de Moïse et des prophètes et dans les psaumes. Et puis il dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ils avaient tout cela, même Jésus le leur avait dit auparavant. Mais il a fallu après la résurrection qu'il intervienne en grâce pour leur ouvrir l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et donc, on peut écouter le message de l'Évangile autant qu'on veut, et on peut même se trouver sous la prédication d'un apôtre comme l'apôtre Paul, sans que rien ne se passe. Il faut absolument que Dieu intervienne pour qu'il touche le cœur. Lydie pouvait écouter Paul, mais elle ne pouvait pas être attentive pour recevoir cette parole avant que Dieu n'intervienne et qu'il lui ouvre le cœur. Et l'apôtre Paul veut que ces Philippiens se souviennent que c'est Dieu qui a commencé cette œuvre dans leur cœur. Et l'apôtre Paul est conscient dans tous ses écrits, il est conscient qu'il est un instrument de Dieu et que c'est Dieu qui agit en puissance pour ouvrir les cœurs. Quand il fait son rapport à l'église d'Antioche, en Actes chapitre 14, verset 27, il dit après, il convoque l'église et puis il raconte tout ce qui s'est passé. Et la Bible dit qu'ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait, avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Vous voyez, il raconte, c'est un compte-rendu missionnaire, et il dit, Dieu a ouvert aux nations la porte de la foi. C'est Dieu qui ouvre la porte. C'est lui qui détient les clés de la porte du cœur des hommes. Ils ont beaucoup travaillé, certes, ils ont beaucoup souffert, ils ont essuyé beaucoup de coups, mais il ne dit pas que c'est à cause de tout cela, parce que les gens ont été sensibles à cette souffrance, qui se sont tournés vers Dieu. Non, il dit que c'est Dieu qui a ouvert le cœur. Et quand il prie, quand il est en prison, et qu'il écrit l'épître aux Colossiens, probablement à la même époque, hein, il prie et il demande aux chrétiens de Colosse de prier pour lui. Colossiens chapitre 4, verset 3, il dit « Priez pour moi afin que Dieu ouvre une porte à la parole. » Il dit « Priez pour moi. » Il n'a pas confiance en sa capacité, son érudition, sa puissance de conviction pour toucher les cœurs. Il dit « Frère, priez pour moi afin que Dieu ouvre une porte. » pour que la parole puisse être prêchée. Et donc, c'est Dieu qui commence, c'est Dieu qui initie. Et non seulement Dieu ouvre le cœur, mais il faut que Dieu attire les hommes pour qu'ils puissent venir à Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui le dit. Dans Jean chapitre 6, verset 44, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Personne ne peut venir à Jésus-Christ si Dieu le Père ne l'attire pas. Il faut que Dieu agisse, parce que c'est Dieu qui œuvre dans les cœurs pour le salut. Et au verset 65, il dit, et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul, Jésus le répète, verset 44, verset 65, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Venir à Christ, c'est un don de Dieu. Personne ne vient à Christ par lui-même. Il y a parfois des gens qui disent, « Moi, j'ai toujours aimé Dieu. Depuis ma petite enfance, j'ai toujours cherché Dieu. » La Bible s'inscrit en faux contre cela. L'apôtre Paul dit, quand il reprend certains passages des psaumes, il dit dans Romains chapitre 3, « Nul ne cherche Dieu. » Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont corrompus. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Et donc, quand une âme vient à Christ, c'est parce que Dieu, le Père, a initié une œuvre dans son cœur. Jérémie disait, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard peut-il changer ses taches? La réponse, évidemment, est non. Et puis il ajoute, de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Un homme accoutumé à faire le mal ne viendra jamais à Christ de lui-même. Il viendra parce que le Père l'attire. C'est Dieu qui initie l'œuvre du salut dans le cœur. Et l'apôtre Paul veut que les Philippiens le sachent. Non seulement Dieu ouvre les cœurs, non seulement il attire les cœurs à lui, mais il faut qu'il suscite la foi dans ses cœurs. C'est lui qui suscite la foi dans les cœurs. L'apôtre Paul dit, Philippiens chapitre 1, verset 29, vous êtes en Philippiens 1, il dit ici, regardez au verset 29, verset 29, il dit, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Il dit, vous croyez, mais même cela, c'est une grâce que Dieu vous a faite. Et dans le texte, la traduction de la Bible Darby dit, parce qu'à vous, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Il vous a été gratuitement donné. De croire. La foi, dit-il ici, est un don gratuit que Dieu vous a fait pour que vous puissiez croire en lui. Dieu, la Bible dit, suscite la foi et l'amène à perfection. Et donc, en cela, le salut est entièrement l'œuvre de Dieu. Et l'apôtre Paul rappelle cela aux Philippiens, que la foi qu'ils exercent vient de l'œuvre de Dieu que Dieu a accomplie, a initiée dans leur cœur. Et aux Thessaloniciens, par exemple, qui est une autre église de la Macédoine, il disait, pour vous, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi. Il a à la fois, si j'ose dire, la fin et les moyens. Il donne la fin et les moyens. Et si Dieu choisit, mais il choisit aussi comment il choisit, par la sanctification de l'Esprit et par la foi dans la vérité. Bien sûr, les hommes et les femmes ont le commandement dans la Bible. Nous le lisons dans la Bible. Le commandement de croire en Jésus-Christ, de venir à Jésus-Christ. Mais ils ne peuvent le faire que si le Père attire, que si le Père initie, que si le Père œuvre premièrement en eux. Et quand nous prions, c'est ce que nous disons. Parfois, on ne croit pas que c'est Dieu qui initie l'œuvre. On pense que c'est nous d'abord qui devons. Mais quand nous prions, nous demandons toujours à Dieu de toucher le cœur d'un tel, d'ouvrir le cœur d'un autre. Et nous demandons à Dieu d'intervenir en premier. Touche son cœur, ouvre son intelligence pour qu'il comprenne. Tout cela, c'est une prière dans laquelle nous demandons à Dieu d'être le premier à initier l'œuvre ici dans le cœur. Le salut de l'homme résulte vraiment du dessein de Dieu et non d'une décision humaine. La Bible le soutient et l'apôtre Paul, en parlant à Timothée, il dit « Souffre avec moi l'Évangile par la puissance, pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation à cause de nos œuvres, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Dieu nous a sauvés non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon son propre plan qu'il a établi dès les temps éternels, selon la grâce qui vous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. 2 Timothée chapitre 1 et au verset 9. Et on pourrait lire encore d'autres passages dans Éphésiens et à bien d'autres endroits. Donc Paul dit cette bonne œuvre commencée ici, que l'apôtre souligne aux yeux des Philippiens, c'est la cause du dessein de Dieu ici en eux, du projet de Dieu, de la résolution du conseil de Dieu. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre. c'est Dieu. Ainsi, le salut, chers frères et sœurs, ne peut être en rien, absolument rien, attribué à l'homme, dans une quelconque mesure, parce que c'est l'œuvre bonne que Dieu initie dans le cœur. Quelqu'un a dit, je cite, c'était un puritain, Thomas Watson, dans un livre peut-être que vous connaissez, je pense qu'on l'a à la bibliothèque, qui s'intitule « Consolation divine », qui est une exposition de Romains chapitre 8, verset 28, dans laquelle il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». Il dit « On peut voir les signes du salut dans les chrétiens, dans les saints, mais la cause du salut se trouve en Dieu ». On peut voir les signes du salut dans le chrétien, mais la cause du salut se trouve en Dieu. Donc Dieu est l'auteur et l'initiateur du salut. Et c'est sa première chose pour laquelle Paul a confiance et il prie avec joie. Il sait que ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça n'est pas l'œuvre d'un homme qui par lui-même a fait quelque chose, mais que Dieu a initié lui-même souverainement. Souverainement. Et puis deuxièmement, il dit que quand Dieu, il se réjouit, si vous voulez, quand Dieu commence une bonne œuvre, la vie en manifeste les évidences. Quand Dieu commence une bonne œuvre, la vie en manifeste les évidences. D'où est-ce que l'apôtre Paul tient qu'une bonne œuvre a commencé en eux? Comment peut-il être aussi affirmatif? Il dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ». Mais comment est-ce qu'il peut être aussi affirmatif sur ce point? Il est même, on l'a vu, persuadé que Dieu a commencé en eux une bonne œuvre. Il se base donc sur ce qu'il voit en eux, sur des manifestations, sur des évidences ici. Et on peut bien sûr penser à la générosité de ces Philippiens. Peut-être que, oui, quelqu'un peut dire, en voyant sur cette générosité, etc., ou d'autres choses, mais je crois qu'il y a bien plus que cela. Il y a certainement les transformations radicales du début. Quand on regarde la fondation de l'Église, eh bien, il y a eu des transformations dans les personnes, mais des transformations radicales. Par exemple, l'hospitalité de Lydie, en Actes chapitre 16, verset 15. Son hospitalité est présentée comme la conséquence de son, comme un résultat, comme une évidence de son salut. La Bible dit, lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Et donc, le texte semble dire ici que, une fois qu'elle s'est tournée vers le Seigneur, qu'elle a été baptisée, elle a ouvert sa maison et elle a insisté pour que les frères entrent chez elle. L'hospitalité a été le signe, a été l'évidence que son cœur a été touché par la grâce de Dieu. L'hospitalité à l'égard des enfants de Dieu est une évidence de la bonne œuvre de Dieu dans le cœur. Romains chapitre 12, verset 13 dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Et de la Bible, il y a plusieurs passages où les chrétiens sont exhortés à exercer l'hospitalité et même fait de l'hospitalité un signe de l'appartenance, du cœur transformé de l'appartenance à Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit aussi « exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ». Et on trouve la même chose dans l'Épître aux Hébreux, où il est question aussi d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité est même un caractère qui est recherché pour les diacres et pour les anciens dans 1 Timothée, que l'ancien soit hospitalier. C'est un signe aussi d'une vie transformée. Mais si on prend l'exemple du geôlier, le deuxième converti, on pourrait dire, eh bien, on peut établir le contraste entre un avant et un après. Avant, verset 24 de Actes chapitre 16, il est dit qu'il a jeté Paul et Silas en prison. Et jeter, ça ne veut pas dire posée délicatement par terre. D'accord ? Le sens, en cherchant, il dit, le sens c'est jeter, c'est laisser tomber sans se soucier de l'endroit de la chute. Hein ? Il laisse tomber comme un vulgaire pack. Ils les ont jetés, hein, puis, ensuite ils leur ont mis des ceps aux pieds. Hein ? C'était des instruments de torture, où les jambes étaient écartées, c'était fait exprès pour faire souffrir. Et vous savez que les Romains étaient maîtres dans l'art de la torture. Et c'est ainsi que ce geôlier les jette en prison. Et puis il va se coucher, et il se réveille au milieu de la nuit. Et en quelques heures, il pose cette question, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Il entend la parole, il se tourne vers Dieu, et la Bible dit qu'il les a fait rentrer chez lui, il a soigné leurs plaies et qu'il leur a donné à manger. C'est une transformation radicale pour quelqu'un qui, peu de temps, n'avait aucun souci de ces hommes, et quelques heures plus tard, eh bien, il les avait déjà reçus chez lui, l'hospitalité, l'humilité, hein, parce qu'il s'est mis à panser leurs plaies, sa déclaration, on pourrait dire, publique, parce qu'il s'est fait aussi baptiser, ici, dans cela, et puis sa joie. Il s'est réjoui, dit la Bible, de ce qu'ils avaient cru. Et ça, ce sont des signes, des évidences qu'une œuvre a commencé. Et je pense que l'apôtre Paul saisit aussi ces choses, ces changements radicaux du début. Quelqu'un qui reçoit Christ ne peut pas continuer dans le même chemin lequel il marchait auparavant. Et un auteur disait que la vraie religion consiste en de véritables affection changée, transformée pour Christ. Celui qui dit appartenir à Christ doit avoir sa vie, doit avoir dans sa vie des évidences qu'il appartient à Christ. Mais je crois que ce à quoi l'apôtre Paul pense peut-être aussi, c'est leur croissance dans l'amour pour Dieu et pour le peuple de Dieu. Après de nombreuses années, quand Paul écrit cette lettre, il est à la fin de sa vie, souvenez-vous. Et donc, quand il dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite », certainement, il a des rapports par Épaphrodite, par d'autres, de ce qui se passe à Philippe, à Thessalonique, à Bérée. Et donc, il peut ainsi mesurer la croissance qui a été accomplie dans la vie de ces chrétiens. Non seulement il y a eu un changement radical, mais il y a eu une croissance tout au long de leur vie. La croissance est signe qu'il y a une naissance. La croissance est le signe qu'il y a eu une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui ne se poursuit pas en croissance n'est pas une nouvelle naissance. Quelqu'un qui dit « Oui, j'ai reçu Christ, je suis un chrétien », mais qui est, après 10 ans comme il a toujours été, il n'y a pas eu de naissance. La nouvelle naissance se continue par une croissance. C'est comme dans la vie. Pour ça, ça s'appelle une naissance. Un bébé qui naît, qui reste bébé, ça n'existe pas. D'accord ? Il progresse malgré lui, si vous voulez. Parce que c'est ainsi que la vie agit ici. Et donc Paul ne se réjouit pas de la stagnation spirituelle, ni d'une transformation initiale, mais il se réjouit de la transformation initiale qui s'est continuée, si j'ose dire, dans une croissance dans l'amour de Dieu et dans l'amour du peuple de Dieu. Quand il écrit à l'autre église de la Macédoine, à Thessalonique, il dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu » comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Vous voyez, la croissance de la foi. Et que la charité ou l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Il dit ça, 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Votre foi fait de grands progrès, mais votre amour augmente de plus en plus. Et quand il prie pour ses Philippiens, chapitre 1, verset 9, il dit, ce que je demande de mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Il y a un amour, il prie pour que ça augmente, mais il reconnaît qu'il y a un amour pour le Seigneur et un amour les uns pour les autres. Et donc l'évidence qu'une vie qu'une œuvre, une bonne œuvre a été commencée, c'est l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres. Parce que Dieu transforme le cœur pour nous rendre capables de l'aimer et de nous aimer les uns les autres. J'ai lu ce verset, je n'avais pas fait attention, mais en écoutant une prédication de Deutéronome chapitre 30, déjà sous l'Ancienne Alliance, voyez, la Bible dit, quel est le plus grand commandement ? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis Jésus dit, le second qui est son semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais en Deutéronome 30, verset, regardez si vous avez, je peux chercher, je ne suis pas obligé de chercher, mais Deutéronome chapitre 30 et au verset 6, Moïse parle au peuple et il dit, l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur, c'est l'image de la conversion, et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Vous voyez, la circoncision du cœur, la conversion, l'œuvre que Dieu initie dans le cœur, rend l'homme capable d'aimer et d'observer la loi de Dieu. C'est exactement ce que le prophète Ézéchiel dit, ça je vous le lis ici, lorsqu'il parle de la nouvelle alliance, du fait que Dieu donne un cœur nouveau, il dit... Dieu parle, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, c'est la nouvelle naissance. Il dit, j'ôterai votre cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Et puis écoutez cela, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dieu dit, je vais faire en sorte que vous suiviez mes lois. C'est-à-dire qu'il initie l'œuvre dans le cœur de manière à ce qu'on soit rendu capable de suivre sa loi, d'aimer ses lois, de nous aimer aussi les uns les autres. C'est pour cela que l'apôtre Jean dit ici que celui qui, il lie le salut à l'amour les uns pour les autres, il dit... Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Vous voyez ? Il dit que l'amour que l'on a les uns pour les autres est une évidence qu'une bonne œuvre a commencé en nous et nous pouvons juger de notre amour, de la réalité de notre salut par l'amour que nous avons pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les autres chrétiens. Est-ce que nous aimons les frères ? Est-ce que nous aimons être avec eux ? Est-ce que nous aimons les voir, prier avec eux, prier pour eux, nous réunir quand ils se réunissent, participer à la communion avec eux ? Ou est-ce que c'est moi et mon Seigneur tout seul ? Dans mon canapé, pas besoin des autres. L'apôtre Jean dit, nous savons que nous aimons, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Parce que quand Dieu transforme un cœur, il met sa loi dans le cœur, et il nous rend capables d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer les autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vous chéris comme la terre. Avec la tendresse de Christ, c'est ce qu'il dit un peu plus au verset 8. Il dit, je vous aime tous, je vous chéris tous, je désire vous voir. Il dit ça. Il a cette chaleur dans son cœur dans laquelle il veut rencontrer les autres chrétiens. Il veut être avec eux. Parce qu'il sait que c'est le peuple de Dieu. Mais cela ne vient pas parce qu'il est né comme ça. Cela vient parce qu'il a l'amour véritable de Christ qui brûle dans son cœur. Et donc, quand Dieu commence une œuvre dans le cœur, eh bien, la vie en manifeste les évidences. La vie en manifeste les évidences par un changement radical, mais par une croissance dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour les uns envers les autres. Elle se manifeste aussi par une persévérance, parce que Paul dit, je me réjouis de la part que vous prenez à l'évangile depuis le commencement jusqu'à maintenant. Il ne dit pas, je me réjouis parce qu'il y a 10 ans, je me rappelle quand j'étais là, vous avez ouvert votre maison, vous avez été hospitalier. Il ne dit pas parce que vous avez été baptisé il y a un jour, il ne dit pas parce que vous avez pris une décision un jour, parce que je me souviens, vous avez prié. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, je me réjouis parce que vous êtes persévérant. Et la persévérance dans la marche avec Dieu est le signe qu'une œuvre a bien commencé dans le cœur et que cette œuvre, c'est Dieu qui l'a commencée. La persévérance est l'évidence que Dieu a commencé une œuvre dans le cœur. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul se réjouit et qu'il est persuadé que c'est Dieu qui l'a fait. Et qu'il est troisièmement persuadé, c'est mon troisième point ici, que Dieu achèvera certainement toute œuvre qu'il aura commencée. Dieu achèvera certainement toute œuvre qu'il aura commencé. Si une œuvre n'est pas achevée, c'est qu'elle n'a jamais commencé. Si une œuvre n'est pas achevée, c'est qu'elle n'a jamais commencé. Paul dit, je suis persuadé. Et c'est le Saint, il le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est pas lui avec ses convictions, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'il parle. Je suis persuadé, j'ai la certitude que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre qui se manifeste par une vie évidente, ici, que celui qui a commencé, c'est-à-dire Dieu qui l'a commencé, l'amènera à perfection pour le jour de Christ. Il existe une symphonie, peut-être que vous, si vous êtes musicien, qu'un compositeur, Franz Schubert, composé. C'est une symphonie qui est très belle. J'ai écouté un peu le début de la symphonie, c'est joli. Si vous aimez, je vous invite à écouter, si vous avez le temps, le début, au moins. Seulement, cette symphonie n'a que 2 parties, au lieu d'avoir 3, 4 ou 5 comme l'ensemble des symphonies. Et donc, on l'appelle la symphonie inachevée, parce que Schubert n'a pas eu le temps, il a ébauché le 3e mouvement, mais il n'a pas eu le temps de la terminer. Alors, beaucoup de gens ont essayé de terminer, il y a eu des concours pour savoir qui pourrait apporter la meilleure fin à cette symphonie. Mais il n'a pas pu l'achever. Ainsi, on appelle cela la symphonie inachevée. Mais si nous regardons dans la vie, nous pouvons rencontrer beaucoup d'endroits où il y a des œuvres qui sont inachevées. Parfois, nous passons à côté de bâtiments, on voit que ça a commencé depuis longtemps, et puis il n'y a jamais eu de porte, de fenêtre, et puis les herbes ont envahi cela. C'est une œuvre inachevée. Et souvent, dans notre propre vie, nous avons des œuvres aussi inachevées. Des choses que nous avons commencées, on ne venait pas chez moi, hein, mais des choses qu'on en a commencées, et puis qu'on n'arrive pas à terminer. Et puis parfois, on entend la femme qui nous dit, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Hein? » C'est biblique, au moins. Mais c'est vrai que nous avons beaucoup de choses parfois que nous commençons et que nous n'achevons pas, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? À cause de beaucoup de raisons. Mais Paul dit ici, concernant Dieu, il n'en est pas du tout ainsi. Et il n'en sera jamais ainsi. Pourquoi est-ce que l'œuvre de Schubert n'a pas pu être achevée? Peut-être parce qu'il est mort avant de pouvoir l'achever. Ou peut-être parce qu'il était en manque d'inspiration. Mais Dieu ne sera pas en manque ni d'inspiration, ni il ne mourra. Et ce qu'il a commencé, il l'achèvera certainement. Celui qui a commencé en vous, c'est Dieu. Et celui qui achèvera, c'est aussi Dieu. Et il est impossible que la bonne œuvre commencée, une fois commencée, ne parvienne pas à la perfection. Pouvez-vous trouver une seule chose, une seule œuvre de Dieu dans l'univers qui soit inachevée? C'est de réfléchir à ça. C'est de réfléchir à s'il n'y a pas quelque chose que Dieu a commencé et qu'il n'a pas fini, qu'il n'a pas pu finir, qu'il n'a pas pu terminer. Est-ce que la création de Dieu est inachevée? Est-ce que la sortie du peuple d'Égypte était inachevée? Est-ce que le ministère terrestre de Jésus sur la terre était inachevé? Non. Jésus lui-même a dit, j'ai achevé tout ce que tu m'as donné à faire. Est-ce que l'œuvre de la croix, à la croix, a été inachevée? Tout est accompli. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont en train encore de se dérouler dans l'œuvre du salut, mais tout ce que Dieu a fait, il le fait parfaitement parce qu'il est Dieu. Dieu, quelqu'un a dit, ne tente pas des expériences. Dieu poursuit un dessein. Dieu poursuit un dessein. Alors pouvez-vous imaginer le Dieu trinitaire, Seigneur de tout l'univers, celui qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir, celui qui est au ciel et qui fait tout ce qu'il veut, celui qui agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, sans que personne ne puisse lui dire « Que fais-tu ?» ou que personne ne puisse résister à sa main. Pouvez-vous imaginer un seul instant que le Dieu souverain dise « J'ai commencé une bonne œuvre dans un tel, mais je n'ai pas pu la terminer à cause de la dureté de son cœur. Je n'ai pas pu la terminer à cause de l'exercice de son libre arbitre. Ou à cause d'autre chose. » Jamais. C'est même un blasphème de penser ainsi. Dieu a la capacité de terminer ce qu'il a commencé. Et même, c'est un honneur. C'est-à-dire, c'est sa gloire de terminer ce qu'il a commencé. Lorsque, à un moment donné, le peuple d'Israël, avec Moïse, je pense que c'est le moment où il devait rentrer en Canaan, il vient, il voulait lapider Josué, etc. Et puis la Bible dit que Dieu parle à Moïse, c'est rapporté dans Nombre chapitre 14, et puis Dieu dit à Moïse, je vais détruire ce peuple. Et je vais faire avec toi un nouveau peuple. Un peuple plus grand et plus puissant. Et vous savez ce que Moïse dit à Dieu, vous vous rappelez? Il dit à Dieu, « Dieu, les Égyptiens, ils vont dire, tu as fait sortir ce peuple, ils savent que tu es grand, que tu parles, que tu étais au milieu d'eux avec la nuée. Ils ont entendu parler de toutes ces choses. Ils vont dire que tu as fait sortir ce peuple d'Égypte par ta puissance, mais que tu n'avais pas la capacité de le conduire à travers le désert. Et c'est pour cela que tu l'as égorgé dans le désert. » Et il dit, n'agis pas ainsi. Et Dieu n'a pas agi de la sorte. Moïse dit à Dieu, les peuples vont se moquer de toi en disant, tu es capable de faire sortir d'Égypte, mais tu n'es pas capable de l'amener en Canaan comme... Il dit même, Moïse dit, comme tu l'as déclaré. Et Dieu a conduit le peuple au pays de Canaan. Jésus dit que si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit et il fait le calcul d'abord. Il dit, de peur que quoi? Ici, ça, il faut retenir ça. Il dit, de peur que ceux qui voient la tour, il dit ça ici, hein, de peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse quoi l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » C'est une honte, c'est un manque de sagesse. C'est un gars qui n'a pas réfléchi, il n'a pas anticipé, il n'a pas fait les calculs. La Bible dit que Dieu nous sauve selon son dessein éternel, calculé, posé, établi dès avant la fondation du monde. Et donc, ce qu'il a commencé, il l'achèvera certainement, parce que c'est son dessein. Et quel est ce dessein? L'apôtre Paul dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà quel est son dessein. Rendre ceux qu'il a choisis, qu'il a élus, semblables à l'image de son Fils. Et il n'échouera pas. Il n'échouera pas dans ce dessein. Il dit même, ici, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il est en train de dire que le salut, c'est un tout. Ce n'est pas juste être appelé, ce n'est pas juste être justifié, c'est être appelé, être prédestiné, être appelé, être justifié, être glorifié. C'est tout ça le salut. Et donc quand Dieu commence le salut dans un cœur, il achèvera certainement le salut dans le cœur. Le salut est un tout et on ne peut pas avoir le commencement sans avoir la fin. Et le dessein de Dieu échouerait si ce qu'il avait commencé n'atteignait pas sa pleine maturité ni son plein épanouissement. Et puis, à un moment donné, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 11, verset 29, il dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » L'appel de Dieu est irrévocable, inaltérable. Et Paul dit aux Philippiens, « Je me réjouis quand je vois comment vous vivez pour Christ, parce que je sais que ça vient de l'œuvre que Dieu a commencée dans votre cœur. Et puis, parce que c'est Dieu qui l'a commencé, eh bien, je sais que Dieu va l'achever. » Et l'apôtre Paul pouvait dire des choses comme, « Je sais que vous êtes élus de Dieu. » Il avait cette certitude quand il voyait, parce qu'il sait que ce qu'il voit, c'est une œuvre de Dieu. Et si c'est une œuvre de Dieu, il ne peut pas en être autrement que le plein accomplissement. Ça, je trouve ça profondément encourageant. Profondément encourageant. Parce que cela détourne mon regard de moi-même et de mes capacités à faire quoi que ce soit pour les porter vers Dieu qui œuvre, qui choisit, qui conduit, qui développe tout du début jusqu'à la fin. Et il le fait ainsi. La Bible dit, afin que toute gloire lui revienne. Je vais terminer avec ces quelques pensées. Cette vérité, chers frères et sœurs, nous pousse à l'humilité et à l'adoration. Il n'y a aucun mérite à accorder ni au prédicateur, ni à celui qui vient à Christ, parce que ce n'est pas de la volonté de celui qui veut, de celui qui vient, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ce n'est pas la méthode, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le nombre d'instruments, ce n'est pas la modernité des programmes qui sont pour quelque chose, ce n'est pas la connaissance de l'homme, ce n'est pas sa sensibilité, mais c'est Dieu qui commence, c'est lui qui continue et c'est lui qui achève. Ce matin, le frère a lu 1 Corinthiens chapitre 1, verset 28-29, où il dit « Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, celles que l'on méprise et celles qui ne sont pas. » Il dit « Pourquoi est-ce qu'il fait ainsi ?» Afin que personne ne se glorifie. Cette vérité nous maintient dans l'humilité en même temps que dans l'adoration pour la souveraine grandeur de Dieu et son action souveraine dans le salut des hommes. Et cette vérité doit constituer aussi notre appui quand le doute vient s'installer. Que font les gens quand ils ont des difficultés? Souvent, ils regardent aux difficultés, ils regardent à eux-mêmes. « Oh, je vais sombrer !» C'est comme Pierre qui dit, il commence à marcher sur l'eau et puis quand il sent qu'il commence à... Là, il regarde aux éléments, le vent qui bouge, la difficulté, et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sombrer. Mais qu'est-ce qu'on doit faire en général quand tout bouge autour de nous? On doit chercher à poser nos pieds sur ce qui est sûr et certain. Et cette vérité est une vérité sûre et certaine. Jérémie, c'est exactement ce qu'il a fait, le prophète Jérémie. Il dit ceci, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est toute abattue au-dedans de moi. » Il est dans un tourment, il dit « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. » Qu'est-ce qu'il repasse dans son cœur ? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Vous voyez pourquoi c'est important de connaître la parole de Dieu, chers frères et sœurs? Parce que lorsque les tourments sont là, il faut que ça vienne et qu'on dise « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» C'est ça qui doit, sur quoi on doit poser notre âme et notre pied lorsque le monde chavire autour de nous. Et lorsque je regarde à ma propre vie, que je crois, mais je serai peut-être perdu, peut-être que... Eh bien, je me souviens que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Ça dépend de lui. Tu es entre ses mains. Personne ne ravira les enfants de Dieu de sa main. Il dit, je les sauverai et elles, mes brebis, ne périront jamais. Jamais. C'est à la vérité qu'il faut regarder, pas à nos sentiments et à nos impressions. Et puis, c'est une vérité qui nous pousse aussi à la patience les uns envers les autres. Hein? Cela est important. L'apôtre Paul dit que c'est pour le jour de Christ. La perspective de Dieu, c'est le jour de Christ. Ce n'est pas forcément maintenant. Maintenant, on est dans l'étape transitoire. La perspective de Dieu, c'est de rendre parfait pour le jour de Christ. Alors, nous devons exercer la patience les uns envers les autres. Ne pas exiger qu'ils soient parfaits, parce que nous non plus, nous ne le sommes pas. Mais savoir que Dieu les rendra parfaits pour le jour de Christ, comme il nous rendra aussi parfaits pour le jour de Christ. Cela nous pousse à prier les uns pour les autres. Et puis, je termine en disant que cette vérité est un appel aussi à la repentance. Paul se réjouit pour ses frères, car il sait qu'ils sont en sécurité dans la main de Dieu, parce que Dieu a commencé une œuvre en eux. Mais ceux en qui cette œuvre n'a pas commencé ne sont pas en sécurité. La Bible dit que la colère de Dieu demeure sur eux. Et donc ce passage, cette assurance qui est faite aux chrétiens, est un appel à ceux qui ne le sont pas à venir à Christ, à se tourner vers Christ, à se repentir. Et l'apôtre Paul disait, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, venez à lui, entrez par la porte étroite. C'est un appel à venir à Christ, à venir à Christ. Parce que quand ce jour de Christ viendra, si Dieu n'a pas commencé une œuvre dans le cœur, vous allez subir la colère de Dieu éternellement. Éternellement. Donc si vous entendez aujourd'hui sa voix, la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Venez à Jésus-Christ. Ce que Dieu commence, et c'est le titre de notre méditation, il l'achève parfaitement. Parce que Dieu est l'auteur et l'initiateur du salut. Et quand Dieu commence, il y a des évidences qui apparaissent dans la vie qu'une œuvre a commencé. Quand une œuvre a commencé, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il la conduira certainement à sa perfection. Quelle merveilleuse vérité. Et que cela nous pousse vraiment à adorer Dieu, de ce qu'il ait voulu, comme Jésus l'a fait, ainsi. Prions. Oui, Seigneur.